Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grandes affabulatrices de l'histoire. Après Marthe Richard et Violette Nozière, vous nous brossez, Mathieu, le portrait pour une fois à 100% vrai d'une femme à 100% mytho-woman, Tania Head.
Tania Head, dont ce n'est évidemment pas le vrai nom, puisqu'elle est mythomane et que les mythomanes avancent souvent masqués, Stéphane. Je vous présente donc notre championne du jour, un pseudo de hardeuse slovène spécialisée dans le gonzo, un look de texane pure souche alors qu'elle n'est même pas américaine mais espagnole, l'ADN de Serge le mytho, les lunettes d'une assistante dentaire des années 80 et le sens moral d'une huître d'Oléron. Je vous présente Tania Head, fausse rescapée des attentats du World Trade Center.
Salope !
Alors certes, Stéphane, c'est dégueulasse, mais en tant que journaliste, nous devons nous interroger sur les raisons psychiatriques qui ont poussé cette femme dans les bras de l'affabulation. Dans la vie, il y a les petits mensonges du type « Mais je te jure, mon amour, que je n'ai pas jeté ton Actifry, cherche mieux dans la cave !» Il y a les moyens mensonges. Tu sais, je vais te dire un truc, moi je suis pas du tout appli de rencontre normalement, c'est la première fois de ma vie que je fais un rendez-vous Tinder, en fait t'es mon premier crush. Elle connaissait la tactique. Il y a ensuite la catégorie des gros mensonges dont certains sont si gros qu'ils peuvent t'emmener en tôle, par exemple quand tu commences un jour un mail par « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que vous nous expliquons ci-dessous. » Et encore au-delà, parce qu'elle, elle a réussi à tenir le mensonge pendant des années, il y a Tania Head qui en 2003, deux ans après le crash des avions dans les tours jumelles, débarque sur un forum internet, la mine enfarinée, et se présente grosso modo comme ça. « Kikou, je suis une miraculée des attentats du 11 septembre. Après avoir été brûlée, j'ai été sauvée par un pompier volontaire qui a lui-même clamsé dans mes bras, mais pas avant de m'avoir donné sa bague de fiançailles dans un ultime souffle. Puis j'ai été plongée pendant 5 jours dans un profond coma avant de me réveiller et de découvrir que mon fiancé Dave n'avait lui pas survécu. » Un autre Dave, Stéphane. Vous vous souvenez, Stéphane, quand vous aviez de cesse en soirée de raconter que vous étiez le descendant direct du duc de Richelieu.
Eh bien,
on sait ce qu'on dit de vous. Cette bonne Tania, elle, prétendait avoir travaillé pour une filiale de la banque Merrill Lynch au 96e étage de la première tour du World Trade Center. En réalité, son seul lien avec le milieu bancaire, c'était les échanges par mail qu'elle entretenait avec son conseiller pour passer d'une carte électron à une carte gold. On se moque pas, Stéphane, pour la plupart des gens, c'est déjà très bien la carte gold. Celle qui s'appelle en réalité... Alicia Esteve vient de créer son faux personnage, celui de Tania Head, le 13 mai 2003, en envoyant son premier email de rescapé des attentats sur un site de discussion. Une bouteille à la mer vite repêchée par les victimes survivantes, bouleversées par son faux récit. Elle tisse progressivement son mytho macabre avec talent et précision, puis en novembre, elle a son scénario bien abouti en tête, elle raconte son miracle publiquement et se pointe carrément quelques semaines plus tard à la première réunion de rescapés. Et là, si on peut dire, le miracle opère. Tout le monde tombe sous son charme, son histoire. Il faut dire qu'à défaut de l'avoir vraiment vécu, elle sait la raconter. Elle devient, plus qu'une rescapée parmi d'autres, une mascotte de l'après-11 septembre 2001. Elle monte en grade, elle s'agite de plus en plus pour partager son récit, comme si elle voulait se tailler une place dans l'histoire avec un grand H. Son mytho prend des proportions folles. Le 7 septembre 2005, elle va jusqu'à jouer les guides lors de la première visite officielle de Ground Zero, à laquelle assiste le gouverneur de l'État de New York, le maire de New York et même son prédécesseur. Après un discours poignant, elle simule même une crise de panique parce que « it was too much for her », racontera le Huffington Post des années plus tard. C'était trop pour elle. Elle joue impeccablement bien son rôle, les autres rescapés, et c'est ça le plus fou, n'y voient que du feu. Ils ne sont pourtant que 19 à avoir réussi à s'échapper des étages supérieurs de la première tour touchée par le premier avion des terroristes. Tania, qui en réalité n'a vu le World Trade Center qu'en carte postale, devient présidente du réseau des rescapés du World Trade Center. C'est comme si David, qui n'a jamais réussi un lay-up, devenait président de l'association des anciens joueurs de la NBA. C'est à peu près le même niveau. Grâce à elle, ce groupe gagne en notoriété et en puissance. Le réseau recrute des milliers de membres, tisse des alliances politiques et convainc même la commission du mémorial du 11 septembre de lui donner de la visibilité dans le musée en construction sur le site du World Trade Center afin que la mémoire des survivants, et non pas seulement des morts, soit transmise aux générations à venir. Mais, vous le disiez, l'éternel souci des mythos, c'est qu'ils sont souvent pris dans ce qu'on appelle l'escalade du toujours plus haut, toujours plus loin, jusqu'au mytho de trop. Constatant que personne ne doute de son histoire, Tania en rajoute. Elle affirme avoir étudié dans une université aussi renommée que Stanford et Harvard, sans s'emmerder à fournir de diplôme. Elle atteint ce niveau de notoriété piégeux où, puisque personne ne remet en cause sa légitimité, le mythomane est incité à aller toujours plus loin dans le mensonge, comme Stéphane.
C'est l'année Flaubert, et je me replonge en ce moment dans Flaubert, donc...
Oui, et moi je relis Tolstoï, mais dans le texte, parce que la traduction c'est quand même pour les feignasses. Bref, Tania est prise au piège dans ce cercle vicieux de sa propre supercherie. Alors, comme au poker, quand on a commencé à bluffer avec une paire de deux, elle se retrouve obligée de faire tapis. Survivre au 11 septembre, tout compte fait, c'est banal. Alors Tania annonce, fin 2004, qu'elle a aussi porté secours aux victimes du tsunami en Thaïlande. Et puis en 2005, elle les copait aussi à la Nouvelle-Orléans après le passage de Katrina. Elle aurait vidé tout un quartier avec une cuillère à soupe. À l'époque, son auréole est telle que tout passe. Elle pourrait dire « Mon cousin est une licorne, j'ai couché avec Barack Obama, j'ai 8 reins ». Les journalistes lui diraient
« Non, c'est vrai ».
Mais peu à peu, ses récits commencent à éveiller les soupçons. Alertés par quelques membres du site de survivants qui commencent à noter quelques incohérences dans ses différents récits, le New York Times décide d'enquêter. Et quand le New York Times enquête, c'est pas comme quand David enquête et qu'il arrive à contacter les experts, mais seulement après la diffusion de sa chronique. Au Times, c'est des pros, hein. Ils ont les experts avant de rédiger leur article. Ça va pas traîner. Résultat de l'enquête en quelques minutes seulement pour le journaliste du Times. Et non, Tania Head n'a jamais travaillé dans la finance ou dans le milieu de la banque de toute sa vie. Elle ne s'appelle pas Tania et les amis de l'homme qu'elle présente comme son compagnon mort n'ont jamais entendu parler de cette sombre folle. Le 11 septembre 2001, Tania, officiellement Alicia Estève, ne se trouvait pas du tout dans les tours jumelles. Elle était à Barcelone en train de s'empiffrer de patatas bravas. Et oui, Barcelone qui était la ville où elle vivait, puisqu'elle est espagnole. Et qu'elle commençait à l'époque un MBA dans une école de commerce. La question qui se pose, évidemment, la question qui nous taraude tous, Stéphane, est la suivante.
Mais qui a eu l'idée, la première fois, en voyant un oursin, de dire « Tiens, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans ».
Non, non, la question était comment expliquer d'un point de vue psychologique que quelqu'un aille bousiller sa vie et affecter celle des autres en élaborant un mensonge aussi inutile, grotesque et blessant. Hélas, avec vos conneries d'oursin, on n'a plus le temps d'y répondre. C'est vraiment tout vous, ça, Stéphane, c'est dommage.
Non, c'est
les psychiatres expliquent néanmoins que les pires tragédies génèrent souvent ce type d'appropriation du malheur de la part de mystificateurs qui, par identification mythomaniaque ou perversion, font leur miel de la souffrance des victimes, des cas que les spécialistes assimilent à une manifestation d'hystérie. Morale de l'histoire, les enfants, se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Par exemple, un type calé en histoire.
Oh, non,
un recommence. Jour ou l'autre, ça ne tient plus, votre mensonge s'effondre et vous avec. Comme Stéphane l'autre jour.
En attendant à la rentrée toujours, l'histoire de la gnomotique, de la gnomonique. Ah oui, c'est ça, les gnomons, les gnomoniques. Gnomonique, gnomonique.
Oui Stéphane, il faut pas mentir, il faut jouer carte sur table. Vous ne connaissez rien à la gnomotique, vous avez confondu avec la domotique, qui n'a rien à voir.
Non mais ça va, je n'ai pas mitonné. Quoi.
Vous n'avez pas mitonné, c'est vrai. Mais c'est
dites-moi, une chose, personne ne s'est rendu compte que c'était espagnol, donc en fait elle parlait mal l'anglais.
Mais non, parce que je vous dis, c'était... comme une actrice, elle s'est mise dans le rôle et elle parlait anglais, visiblement, et donc personne n'a remis en cause. Vous verrez des photos, elle fait plutôt texane que...
Et personne, à ce moment-là, n'a vérifié son emploi du
temps. Mais non, mais parce que pour une raison simple, c'est que, on peut imaginer de la mythomanie quand il y a un intérêt, par exemple, parce que ça va nous rapporter de l'argent, etc. Mais là, c'est tellement triste et tellement... On ne voit pas quel serait l'intérêt à être une victime du 11 septembre, en fait. Donc, je pense que les autres victimes n'ont pas osé mettre en doute sa parole.
Vous avez raison. Cela dit, le point positif, c'est qu'elle a réussi tout de même à faire parler des survivants. Non, parce que vous racontez qu'elle obtient des choses, que la place dans le musée, etc.
Et c'est
donc elle a donné une aura à cette cause.
Et c'est peut-être pour ça, d'après ce que j'ai compris, que les autres, que les survivants n'ont jamais porté plainte contre elle par la suite. Ils l'ont laissée tranquille, voilà.
Ça avait beau être faux, ça
a servi à quelque chose.
La fin, bah merci Mathieu.
Moi, je suis rescapé de la bataille de Waterloo.
C'est vrai. Oui.
Mon pauvre.
Mais on va voir ça tout à l'heure avec le Gravelax. Europe 1, historiquement vôtre.